La science CQFD, Natacha Triou.
C'est un classique du jeu vidéo et son adaptation en série par HBO est déjà un succès. The Last of Us, la fiction post-apocalyptique. Quelle est sa crédibilité scientifique ? En 2033, l'humanité est frappée par une pandémie d'un autre genre. Pas de virus, c'est surfait, pas tout à fait des zombies. Place à la contamination fongique et aux humains infectés par un champignon parasitaire, le bien nommé Cordyceps. En 2013, ce jeu a marqué un tournant dans l'industrie vidéoludique. C'est l'un des jeux les plus vendus et récompensés de l'histoire. Avec son adaptation en série, 10 ans plus tard, The Last of Us est devenue une franchise. Comment renouvelle-t-elle nos imaginaires ? The Last of Us, il va y avoir du sport. Guillaume Béchelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en arts et sciences de l'art, professeur agrégé d'art plastique, chercheur associé au laboratoire Artes à l'Université de Bordeaux et l'auteur de Havre de peur, lieu d'horreur en jeu vidéo aux éditions Rouge Profond. Nicolas Denéchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages traitant de franchises de jeux vidéo et notamment de The Last of Us, que reste-t-il de l'humanité chez Third Edition. Et nous sommes également avec vous en ligne, Marc-André Sellos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et professeur à l'Université de Tianjin en Pologne et Kunming en Chine. Merci à vous trois d'être là avec nous en direct des studios de France Culture. Et merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, là maintenant, sur notre fil @sciencesqfd. On vous poste tout au long de cette heure les liens, les sources qui ont nourri cette discussion. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de l'originalité de cette fiction post-apocalyptique, de son réalisme scientifique. Est-ce qu'une pandémie de champignons peut vraiment se produire ? Au départ, The Last of Us est un jeu vidéo narratif sorti en 2013 sur PS3. On commence avec sa bande-annonce.
Bon. La fille, elle est vivante.
Quelle fille ? Je sais pas de quoi tu parles. Elle est vivante.
Où ça ?
Dans la ville ! Dans la ville !
Je vais t'expliquer comment ça marche. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis.
Joël, je peux me défendre toute seule.
C'est de la chance, et ça ne va pas durer.
T'as entendu ? Courez ! Ils sont trop nombreux !
Allez, mange-toi, tu viens ! Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ?
Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Joël !
Voilà, ça c'est une bande-annonce de cinéma, Guillaume Béchelier.
Ouais, effectivement, on est sur un gros blockbuster là. On est sur, c'est HBO et Sony qui ont sorti les gros calibres avec ce qui est une des plus grosses franchises pour Sony au niveau jeux vidéo et pour une fois, on va dire une adaptation. Alors jusqu'à présent, hein, je suis comme tout le monde, je n'ai vu que les premiers épisodes, mais une adaptation vraiment réussie d'un jeu vidéo sur, j'allais dire grand écran, mais en tout cas à l'écran, et ce qui relève relativement du miracle, parce que jusqu'à présent, on a essentiellement des franchises qui ont été torturées au cinéma, parce que ça se prête rarement à des bonnes adaptations. Mais là, on a effectivement un gros projet et qui, ben, ça s'entend dans la bande-annonce, on sent que les moyens sont là, quoi.
Nicolas Denéchaud.
Oui. Alors en fait, c'est vrai qu'à la base, c'est une grande licence de jeux vidéo, donc une franchise hein, qui compte deux jeux et puis un petit épisode supplémentaire, qui a commencé en 2013, mais dans un climat un peu particulier. En fait, ce qu'elle a de particulier, cette série de jeux vidéo, c'est qu'elle a met en avant le récit et son histoire. En gros, elle arrive dans un carcan où le grand public il considère que le jeu vidéo, ça raconte pas forcément une histoire. Le jeu vidéo, c'est comme Mario Kart ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc pour s'amuser, mais qui a pas de grandes ambitions narratives. Moi, j'aime bien cette citation de John Carmack, qui est un des grands créateurs d'un autre grand jeu vidéo très populaire, qui est Doom, et qui disait l'histoire dans un jeu vidéo, c'est comme l'histoire dans un film porno. On s'attend à en trouver une, mais c'est quand même pas le plus important. Et je trouve que ça résume assez bien le contexte dans lequel arrive The Last of Us, qui met en place une histoire très élaborée et qui va tout d'un coup détonner par rapport à la production et même poser un jalon dans l'histoire du jeu vidéo.
Alors The Last of Us, hein, c'est donc un jeu vidéo narratif. Hein, le jeu vidéo est vraiment pensé comme un outil pour la narration. Guillaume Bachelier, hein, quelle est sa proposition narrative, sa particularité et surtout que nous raconte ce jeu ?
Alors on est face à un jeu qui se présente effectivement avec tous les atours du blockbuster, c'est-à-dire que c'est un jeu qui visuellement est extrêmement séduisant, il était à la pointe de ce qui se faisait à l'époque et même au-delà, et même encore aujourd'hui, c'est un jeu, comme il a été dit, le premier opus date de 2013, donc ça commence à dater. Maintenant, d'un point de vue sur l'échelle historique du jeu vidéo, 10 ans, c'est 10 siècles, et malgré tout, on a un jeu qui est encore extrêmement séduisant visuellement, et qui va utiliser cet aspect-là pour nous raconter une histoire post-apocalyptique. Donc on est dans des canons de récits qui se retrouvent par ailleurs dans d'autres séries de jeux vidéo. On n'est pas sur quelque chose de très original de ce point de vue-là, qui va croiser cette thématique-là avec celle de la pandémie et plus ou moins du récit du récit de zombies classique, même si la série de jeux comme la série télévisuelle se garde bien d'employer le mot zombie. Mais on est sur ce type de récit, donc rien d'extrêmement étonnant. Mais malgré tout, oui, comme ça a été dit par Nicolas, on est sur un jeu qui va essayer de nous construire une histoire où on va essayer d'aller au-delà de la simple action en accordant énormément d'importance à des moments narratifs, à ce qu'on appelle des cinématiques, donc des séquences filmées qui ne sont pas interactives et qui sont des séries qu'on pourrait regarder. D'ailleurs, c'est assez intéressant, j'ai une petite parenthèse, dans la série, on a énormément de séquences qui sont plan pour plan, exactement ce qui est montré dans le jeu. Et voilà, dans ces moments-là, on essaie de nous tisser un récit où on va suivre deux personnages essentiellement, à savoir Joël, qui est une sorte de vieux briscard, de contrebandier, qui va devoir se retrouver à s'assurer de la sécurité d'une jeune fille, Ellie. Et tout ça dans un contexte où il y a tout d'abord des difficultés relationnelles, on va dire, parce que Joël ne s'est jamais remis de la mort de sa propre fille, et ce qu'on découvre dès le début du jeu vidéo et dès le début de la série, parce que la série est vraiment en décalque avec le jeu vidéo pour l'instant, enfin à quelques exceptions près, on y reviendra sans doute, hein. Et bien évidemment tout l'enjeu de la narrative, c'est de savoir comment ces deux personnages vont se rapprocher, comment il va se créer des liens et comment le grand récit qui est tendu derrière ça, à savoir l'éventualité, la possibilité d'une fin de cette pandémie grâce au personnage d'Ellie, va interférer finalement avec la construction de leur relation, ou inversement, comment leur relation va interférer avec éventuellement la fin de cette pandémie.
Voilà, il sera question de trouver un vaccin et pour réagir à ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans le jeu, hein, un jeu qui joue mais qui peut aussi tout à fait savourer comme spectateur, Nicolas Denechaud. Hein. C'est vraiment un jeu qui se trouve à la charnière entre le cinéma et le jeu vidéo.
Ouais, paradoxalement, c'est aussi un jeu qui se met un peu en opposition avec le cinéma, parce que c'est l'aboutissement d'une certaine formule qui va utiliser tous les codes qui ont été développés, qui ont été théorisés pendant plus d'une trentaine d'années dans le jeu vidéo, tous ces codes qui analysent en fait qu'est le jeu vidéo et ce qu'il peut apporter pour raconter une histoire un peu en opposition avec ce que le cinéma fait de manière plus linéaire directement avec le spectateur, puisque évidemment le joueur dans le jeu vidéo, il agit sur le jeu vidéo, il va ressentir des choses à travers sa manette. Et The Last of Us, c'est une espèce de somme en fait de tous ces outils qui ont été faits, si vous voulez, pour créer des empathies avec les personnages, pour développer effectivement, comme le disait Guillaume, cette relation qui est primordiale, hein, dans tout le récit, dans la quinzaine ou la vingtaine d'heures que va durer The Last of Us. C'est cette interaction que vous allez avoir en tant que spectateur-joueur qui va avoir une importance. Et c'est pour ça que c'est aussi assez passionnant de voir qu'aujourd'hui, elle est retraduite de manière assez littérale, comme le disait Guillaume, en série, puisque on voit que les créateurs, Neil Druckmann notamment, puisque Neil Druckmann étant un des deux co-créateurs du jeu et aujourd'hui un des deux co-créateurs de la série, Neil Druckmann a traduit ces artifices qui sont propres aux jeux vidéo pour essayer de les faire passer dans la sémantique de la série télévisuelle.
Alors ce jeu, hein, enfin, les deux jeux The Last of Us Part 1 et Part 2, ce sont des jeux vidéo qui ont atteint 37 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est aussi le jeu le plus récompensé de l'histoire du jeu vidéo avec plus de 300 distinctions compteurs. Pourquoi est-ce que ça a rencontré un tel succès? Pourquoi celui-ci, Guillaume Bachelier, et pas les 12 000 autres jeux hein, qui portent aussi sur une histoire post-apocalyptique?
On est face à, encore une fois, un blockbuster, un jeu dans lequel des moyens gigantesques ont été mis. C'est des années de développement, ne serait-ce qu'entre le premier volet et le deuxième volet, il y a 7 ans. Et bon, même pour un jeu vidéo, c'est souvent assez long à produire, 7 ans, ça commence à être considérable. Et on a à la fois un savoir-faire très très pointu du studio Naughty Dog, je sais même pas si on les a évoqués depuis tout à l'heure, qui est le studio qui est derrière ce jeu. On a tout le financement de Sony et on a la volonté de faire quelque chose qui va être, encore une fois, à la pointe de ce qui se fait. Et voilà, les thèmes qui sont employés sont extrêmement classiques. Dans l'univers du jeu vidéo, en tout cas, les récits post-apocalyptiques, c'est toujours propice à des bonnes bagarres, donc c'est très très bien. On a les zombies, c'est également propice à des bonnes bagarres, et ce qui est au cœur de beaucoup d'histoires dans le jeu vidéo. Mais cette volonté de raconter les choses, et de raconter les choses en employant des artifices propres au jeu vidéo, mais également propres à des techniques narratives plus classiques, plus littéraires, plus cinématographiques, ça va être poussé de manière assez inhabituel par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans le jeu vidéo, en tout cas dans le jeu vidéo grand public, blockbuster, parce qu'on a effectivement déjà à l'époque des jeux vidéo indépendants qui travaillent leur narration de manière très soignée, qui essayent d'aborder des sujets fins, qui essayent d'aborder des sujets intimes, mais dans un blockbuster c'est complètement inédit, et en tout cas à ce niveau-là c'est clairement inédit, et en plus de cela on a un travail qui se ressent dès qu'on regarde un extrait du jeu, un travail d'acting, on a un travail sur le jeu des acteurs, ou que ce soit en anglais et en français, il y a un très bon boulot qui a été fait, mais c'est vrai que la performance en anglais est particulièrement remarquable parce que ça a été fait bien évidemment par des acteurs spécialistes de jeux vidéo en anglais. On a un jeu qui n'hésite pas à mettre des émotions sensibles, qui n'hésite pas à toucher à des sujets parfois difficiles, et ça c'est quelque chose qui était assez peu courant à l'époque où le jeu était produit, et certainement pas avec autant de moyens.
Oui, puis il y a cette motion capture hein, qui fait toute l'originalité du jeu avec de vrais acteurs pour les cinématiques des personnages. C'est un travail gigantesque. Autre originalité, hein, c'est cette idée d'une pandémie fongique. Est-ce qu'on peut faire un mot, hein, Nicolas Denechaud, sur la genèse du jeu et sur son co-créateur Neil Druckmann des studios Naughty Dog? D'où lui vient cette idée hein, d'avoir un champignon parasite qui viendrait infecter l'espèce humaine?
Alors, pour la faire assez courte, puisque c'est quand même un projet de longue haleine, c'est un projet que... Enfin, les premières ébauches de ce que deviendra The Last of Us, elles viennent pendant les études en fait de Neil Druckmann. Au début, Neil Druckmann, il se destine à être profiler. Donc, il fait des études de criminologie, et puis il abandonne tout ça, et finalement, il va dans la Carnegie Mellon University aux États-Unis, qui est une université qui, au début des années 2000, a une approche assez spéciale, justement, du développement de jeux vidéo, qui était juste que là très campé, très orienté informaticien, vous voyez. Et là, on avait plus une approche artistique. Et une année, en fait, où il était étudiant dans cette école, il a eu comme dans sa promotion, en fait, une possibilité de présenter un projet à George Romero, donc le papa des zombies. De films comme La Nuit des Morts Vivants, etc. Et donc chaque étudiant devait présenter un simili projet. Et lui, en fait, influencé à la fois côté cinéma par des choses comme Sin City de Frank Miller ou des choses comme ça, et La Nuit des Morts Vivants évidemment. Et puis à la fois venant du jeu vidéo par des jeux comme Ico qui étaient déjà des espèces de jalons de l'histoire du jeu vidéo dans lequel il y a un travail sur la relation entre deux personnages. Il va inventer une histoire où un homme un policier dans un monde infesté de zombies va devoir prendre sous son aile une petite enfant et puis devoir déambuler comme ça et la protéger pendant tout le jeu. Ce projet, il devient pas grand chose puisqu'il sort de ses études, il va rejoindre le studio Naughty Dog et en fait il va adhérer à une certaine école d'écriture qui était en train de naître dans ce studio. À l'époque, ils étaient en train de développer un jeu qui va s'appeler Uncharted et qui va sortir en 2007, qui a d'ailleurs bénéficié d'une adaptation cinématographique l'année dernière. Et ce jeu qui a été lui-même chapeauté par une créatrice qui s'appelle Amy Henning. Amy Henning, elle a apporté ça à ce studio, elle a apporté une emphase plutôt sur les personnages plutôt que sur l'univers. En gros, en s'appuyant sur les théories d'un théoricien de la narration qui s'appelle Robert McKee, qui est assez célèbre. En gros, son postulat, c'est de dire bon bah de toute manière les spectateurs ou les joueurs, ils connaissent déjà à peu près tous les univers possibles. Donc ne vous focalisez pas sur les univers. Les spectateurs ou les joueurs vont reconstruire ces univers juste avec quelques éléments visuels et focalisez-vous sur les personnages. Et ça, c'était assez nouveau dans le jeu vidéo. Et effectivement, ensuite, c'est le visionnage avec son autre co-créateur, qui est Bruce Straley, d'un documentaire qui s'appelle Planète Terre, qui est raconté par Attenborough, et dans lequel, dans une jungle, on aperçoit pour la première fois des fourmis et des insectes qui vont être infectés par un champignon assez visuellement,
impressionnant.
Ouais. Dans lequel, voilà, impressionnant, j'ai pas de mots tellement c'est le premier visionnage de ces images-là est terrorisant, dans lequel on voit ces champignons prendre possession des insectes. Quoi.
Oui, sans
et c'est là, évidemment, que va se faire la fusion entre cette idée initiale et puis ce nouvel univers que va devenir The Last of Us.
C'est ça, sans ce documentaire Planète Terre et la découverte de ce champignon, il n'y aurait pas eu l'histoire de cette franchise. Et là, je me tourne vers vous, Marc-André Sellos, hein, parce qu'un champignon qui vient infecter l'espèce humaine, c'est une proposition qui n'est pas si courante que ça.
Alors d'un côté, on a tous plus ou moins connu les mycoses ou tout un tas de cas comme ça où effectivement on est parasité par des champignons, mais c'est rarement aussi dévastateur. Et puis surtout, c'est rarement aussi phénoménal que ces cordyceps là. C'est vrai, on le disait à l'instant, les symptômes formés sont incroyables. Une fois que l'insecte est mort, il y a des expansions hyper colorées qui apparaissent et qui sont en fait les endroits où sont produits les spores qui vont réinfecter d'autres animaux. Mais en revanche, que nous soyons atteints par des cordyceps, ça, j'ai des doutes. C'est quand même des parasites très très spécialisés en insectes. Et on fait pas partie de leur menu ordinaire, et ils n'ont pas nécessairement les adaptations requises pour vivre dans l'homme. Ne serait-ce que vivre à 37 degrés, alors que les insectes, je vous le rappelle, ils sont à la température ambiante. Hein. 37 degrés, à mon avis, c'est un peu chaud. Donc, moi, j'ai pas peur des cordyceps. En revanche, j'ai souvent peur des champignons, parce qu'effectivement, c'est potentiellement pour l'humanité des sources de maladies à venir et à émerger importantes. En ce sens, la peur des champignons n'est pas fausse. C'est peut-être pas le bon groupe. On s'en fiche parce que bon, ça fait une belle série, ça fait un bon jeu.
Une pandémie fongique et la star de la franchise, c'est lui, le cordyceps. On vous fait les présentations un peu plus précisément, restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
16h18 sur France Culture avec Guillaume Bachelier, Nicolas Denechaud et Marc-André Sellos. Nous parlons de l'œuvre post-apocalyptique The Last of Us, un jeu adapté en série par HBO en 9 épisodes, actuellement en diffusion sur Amazon Prime. La série s'ouvre sur cette scène. Des scientifiques invités sur un plateau télé discutent des risques d'une infection fongique.
Et vous, docteur Neumann, vous êtes également épidémiologiste. J'imagine que la perspective d'une pandémie virale doit vous empêcher de dormir.
Non.
Non ?
Non.
Bien, c'est la fin de notre émission.
Non, l'humanité a toujours été en guerre contre les virus. Il arrive parfois que des millions de personnes meurent comme en temps de guerre, mais en réalité, nous finissons toujours par gagner.
Mais vous, que les choses soient claires, selon vous, les micro-organismes représentent une menace ?
Non, oui, une menace on ne peut plus concrète.
Les bactéries ?
Non.
Vous aimez dire non ?
Oui.
Donc, ni les bactéries, ni les virus, alors...
Les champignons. Oui, tout le monde réagit de cette façon. Ils nous paraissent inoffensifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que certains champignons ne cherchent pas à tuer, mais à prendre le contrôle. Une petite question. Comment obtient-on du LSD ?
Vous avez une bonne adresse ?
À partir de l'ergot, un champignon. La psilocybine vient aussi d'un champignon. Les virus nous rendent malades, oui, mais les champignons, eux, peuvent altérer notre esprit. Il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. Le champignon traverse tout son système sanguin pour arriver jusqu'au cerveau qu'il inonde d'hallucinogènes. Ce faisant, il prend le contrôle total de cette fourmi. Le champignon lui dicte son comportement, il lui dit où aller, quoi faire, un peu comme un marionnettiste contrôle son pantin. Mais ce n'est pas tout. Le champignon doit se nourrir. Il commence donc à dévorer son hôte de l'intérieur, se substituant petit à petit à la chair de la fourmi. Mais il ne laisse pas sa victime mourir, non. Il va maintenir sa petite marionnette en vie en empêchant le processus de décomposition.
Marc-André Sellos, une réaction à cet extrait?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut craindre les champignons. Je vais juste faire une remarque, c'est qu'ils sont très proches de nous dans l'évolution. C'est le groupe frère des animaux. Donc, on a très très peu de molécules qui soient actives contre les champignons, qui ne soient pas dangereuses pour l'homme. Donc, effectivement, aujourd'hui, on sait très bien qu'en médecine, il y a des risques fongiques. Après, la description qui est faite est un tout petit peu... Enfin, la marionnette, là, c'est un peu violent. La réalité est la suivante. La plupart des cordyceps, ils infectent l'animal et en fait, ils vont le tuer pendant qu'il effectue sa transformation, qu'il le transforme d'une larve en adulte. Il y a une période de repos où la larve se transforme en adulte et c'est souvent à ce moment-là qu'arrive le décès. Les ophiocordyceps, puisque ophiocordyceps il y a dans cette histoire-là, ils ont une particularité. C'est qu'ils vont infecter un adulte qui se déplace, hein, qui bouge, et ils vont effectivement se développer au début sans le tuer. Mais il n'y a pas une manipulation aussi aiguë. Et d'ailleurs, le truc assez marrant, c'est qu'ils ne colonisent pas le cerveau. Et ça, alors ça ne les empêche pas d'émettre des molécules qui vont changer le comportement, mais c'est assez amusant, ils colonisent les muscles. Ils se développent dans les muscles. Et notamment, ils vont induire, et là on ne sait pas très bien si c'est via le cerveau ou parce que directement ils sont dans les muscles mandibulaires, ils vont induire qu'à un moment, la bête va se cramponner de ses mandibules au sommet d'une herbe. Et ça c'est absolument génial parce qu'ensuite elle va mourir, et comme je le disais tout à l'heure, il va se produire une expansion colorée, complexe, qui va libérer des spores, mais comme... La fourmi, puisque c'est une fourmi dans ces cas-là, une fourmi charpentière très exactement, comme la fourmi est cramponnée en hauteur, eh bien les spores elles vont passer efficacement dans le vent et être mieux dispersées. C'est donc une conduite de s'attacher en hauteur qui est induite donc par une action sur les muscles mandibulaires et qui est très intéressant pour que le parasite boucle son cycle.
Vous disiez tout à l'heure qu'une telle interaction ne pourrait pas avoir lieu chez l'humain.
Bah, je suis un peu comme les spécialistes du plateau de télé, je suis peut-être un petit peu, les événements pourront me donner tort, mais ce que je veux dire par là, c'est que, on sait très bien, et le coronavirus nous l'a montré, hein, que les parasites ils peuvent changer d'hôte, ça ils savent faire. Mais il y a quand même des changements qui sont improbables. Être adapté aux insectes, c'est être capable de détruire leur cuticule pour pénétrer à l'intérieur. C'est vivre à des températures qui sont les températures en fait extérieures, parce que dans l'insecte, à quelques degrés près, c'est la température extérieure. C'est, dans ce cas de manipulation du comportement, avoir quand même une adaptation assez fine dans les mécanismes à perturber le partenaire. Alors, autant, on en reparlera peut-être, il y a des parasites qui nous perturbent, oui, dans le comportement, autant que les adaptations du cordyceps à faire ça chez les insectes puissent lui permettre de faire des bêtises chez nous, des bêtises correspondantes, bon, j'ai des doutes. Après... Peut-être qu'effectivement, cette série est prédictive et que ça va se passer comme ça et que j'aurais tort. Mais ça ne me paraît pas les champignons les plus redoutables.
Marc-André Sellos, hein, chez l'homme, quel parallèle pourrions-nous faire? Quel parasite peut plus ou moins modifier nos comportements?
Ah, alors il y en a justement. Ça, c'est assez amusant. On a découvert que la toxoplasmose, alors ça n'a rien à voir avec un champignon, hein, c'est un groupe d'organismes complètement différents, mais l'agent de la toxoplasmose modifie le comportement. Alors déjà, je vous raconte comment il modifie le comportement chez la souris. La toxoplasmose, c'est une maladie de chat, et elle passe par les excréments de chat dans des souris qui, quand elles sont mangées, inoculent le chat. Bon. Et en fait, dans les souris, ça baisse la vigilance des souris, donc qui sont plus facilement dévorées puisqu'elles se méfient moins. Et il y a même un truc amusant, c'est que chez les souris mâles, ça branche la perception de l'odeur d'urine de chat sur les circuits d'excitation sexuelle. Ce qui fait que quand il y a un chat qui a fait pipi, donc souvent le chat n'est pas très loin, bah, la souris mâle est toute excitée et elle va se faire boulotter parce qu'elle est en train de s'exciter au lieu de se sauver. Chez l'homme, on s'est aperçu, c'est dans l'armée tchèque qu'ils se sont rendus compte que les soldats qui avaient la toxoplasmose avaient plus d'accidents que les autres. Et ensuite, il a été démontré qu'effectivement, le fait d'avoir la toxoplasmose, ça abaisse la vigilance, ça augmente les délais de réaction. Et de façon amusante, alors c'est plutôt amusant parce que la toxoplasmose chez nous, elle ne va bien sûr pas nous faire manger par des chats. Donc c'est une fausse route pour la toxoplasmose. Mais elle agit d'une façon qui rappelle ce qui se passe chez la souris, en particulier quand on demande à des hommes infectés ou pas infectés par la toxoplasmose, qui par ailleurs est bénigne, hein, enfin, sauf pour les femmes enceintes, mais quand on demande de noter sur une échelle de 0 à 10, est-ce que c'est agréable ou désagréable, des odeurs d'urine de chat, on s'aperçoit qu'elles sont moins désagréables pour les individus qui sont infectés par la toxoplasmose. Donc on est un peu manipulé par la toxoplasmose, mais pas au point de l'aider à se propager, puisqu'une fois de plus, on ne sera jamais mangé par un chat.
Oui, puis ça va pas, on ne va pas jusqu'à une totale manipulation comportementale.
Mais non. Et d'ailleurs, chez les fourmis, c'est beaucoup plus élémentaire comme perturbation que ce qu'on voit chez les pseudo-zombies. Là.
En tout cas, on voit donc qu'il existe un grand nombre de parasites qui modifient le comportement dans la nature.
Ah bah oui, mais alors, il faut voir ça d'un point de vue évolutif. Toutes les modifications qui vont leur permettre de se transmettre mieux sont sélectionnées. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que le truc de faire se cramponner un insecte à une feuille en hauteur, et une fourmi en l'occurrence, ça existe, c'est un parasite qui n'est pas un champignon, qui est en fait un animal parasite, qui est un parasite de ruminant, la petite douve. Et ce parasite, le dicrocélium pour parler latin, il est dans les excréments, il va contaminer des fourmis et il va faire que ces fourmis vont se cramponner, pareil, en haut des herbes. Et cette fois-ci, elles vont être mangées vives et inoculer la maladie. Dans ce cas-là, le mécanisme de contrôle des muscles mandibulaires est bien connu. Parce qu'en fait, le parasite se développe dans les nerfs qui commandent la musculature mandibulaire. Donc là, on comprend bien comment ça marche. Ils vont à un moment faire se cramponner, faire se refermer les mandibules sur la feuille. Et c'est marrant, donc il y a quand même deux parasites qui ont inventé de percher les fourmis pour se disperser.
Ce que j'avais appris aussi en préparant cette émission, c'est que les fourmis, lorsque une de leurs congénères est infectée par un champignon, par exemple, se chargent de l'emmener le plus loin possible de la fourmilière pour éviter une contamination totale.
Ouais, alors y a pas, chez les animaux, il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Ça, il faut bien le dire. Et ça, c'est général. Il y a, dans beaucoup d'espèces qui vivent en groupe, une tendance à éliminer, à déporter littéralement, physiquement, hein, à exclure les animaux qui ont des comportements bizarres. Et en quelque sorte, ça, c'est souvent des choses qui sont complètement innées, hein, des réflexes. Et quand on vit en groupe, effectivement, le risque, c'est la transmission des maladies, hein, c'est clair. Donc, pour des espèces qui vivent en groupe, éliminer, isoler ou tuer même les animaux qui ont des comportements bizarres, c'est de nature à éviter la propagation des maladies. Même si, on est d'accord, c'est une façon de les éviter un peu cruelle. Mais le monde naturel n'est pas doux du tout, hein.
Parce que parfois des cordyceps peuvent détruire l'intégralité d'une fourmilière. Et là encore, en préparant cette émission, j'ai découvert que sur les 5 millions d'espèces fongiques connues dans le monde, quelques centaines présenteraient un danger pour notre espèce. Marc-André Sellos, c'est vrai ça?
Bah, oui, bah, déjà, il y a ceux qui mangent ce qu'on voudrait manger, nous. Hein. Les atteintes aux récoltes sont vraiment problématiques. Hein. Et elles sont d'autant plus problématiques que pour nous, qu'en plus, elles entraînent l'utilisation de composés antifongiques, qui sont pas très très bons pour nous et dont certains restes dans l'alimentation ne sont pas bons et puis qui sont pas bons pour ceux qui les utilisent. Je pense aux SDHI, hein, les inhibiteurs de succinate déshydrogénase, qui sont très utilisés en agriculture et dont on découvre qu'ils sont pas bons du tout pour les agriculteurs. Alors ça, c'est la première rubrique. Puis la deuxième rubrique, c'est ceux qui nous rendent malades. Alors bon, on n'a pas de maladie mortelle de champignons, on n'a pas des masses, mais on a quand même un truc qui est bien enquiquinant, c'est les aspergilloses pulmonaires. Là encore, c'est une fausse route, hein, parce que c'est un champignon qui a rien à faire là, mais il peut se développer dans les poumons, notamment des individus immunodéprimés. 10% des immunodéprimés sont susceptibles d'avoir des aspergilloses pulmonaires. Donc c'est un problème vraiment fréquent chez les immunodéprimés, et on a 500 000 cas par an, en gros, dans le monde. Hein. Et ces aspergilloses sont très très difficiles à soigner. D'autant que les médicaments qu'on prend sont souvent des médicaments, des anti-champignons, hein, des antifongiques, pour parler techniquement, qui sont des mêmes familles chimiques que ceux qui sont utilisés en agriculture. Or, le fait qu'en agriculture, on utilise ces molécules fait que de plus en plus, eh bien, il y a des résistances qui traînent. Alors les thébuconazoles, puisque c'est la famille qu'on utilise, hein, aux Pays-Bas par exemple, les thébuconazoles sont très utilisés pour les cultures maraîchères ou pour les fleurs. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de résistances qui traînent. Hier aux Pays-Bas, 90% des malades d'aspergillose pulmonaire étaient soignables par des tébuconazoles. Aujourd'hui, à cause des résistances liées au fait qu'on utilise aussi d'autres tébuconazoles dans l'agriculture, c'est moins de 40% des malades qui sont soignables. Et ça, le problème, c'est qu'un malade qu'on ne soigne pas d'une aspergillose, il en meurt. Et ça reste marginal. Le pire est à venir, quels que soient d'ailleurs les parasites concernés.
Ça signifie aussi quand même qu'une épidémie fongique au sens propre serait donc possible, Marc-André Sellos.
Oui, moi j'ai plus peur des virus et des bactéries. Enfin voilà, chacun ses peurs, hein, chaque scientifique a ses terreurs. Mais je pense que ils ont des façons d'évoluer et d'échanger des gènes qui leur donnent une souplesse adaptative et une capacité à muter supérieure à celle des champignons. Ce qui m'inquiète moi dans les champignons, c'est qu'on ne sait pas très bien les traiter, puisque la plupart des molécules qui les affectent risquent de nous affecter aussi. Mais en l'occurrence, et quand on regarde les maladies émergentes actuelles, on a quand même plutôt des ennuis avec des bactéries et des virus.
Pour revenir un peu à la série, ce que je trouve assez drôle aussi dans l'histoire de la série, le jeu vidéo, dans la genèse de ce projet, c'est que Neil Druckmann, quand il a fait la découverte justement de ce charmant parasite, il a déclaré, Guillaume Béchelier, hein, « La nature est bien plus effrayante que tout ce que nous pourrions imaginer ».
Ah mais c'est certain que au-delà du côté définitif de cette citation, ce que je trouve vraiment très très intéressant dans ce que propose le jeu, c'est la manière dont ça a permis de renouveler un peu les représentations de monstres et l'iconographie qui était un peu essoufflée autour du zombie. Alors ça n'empêche pas d'avoir des grands succès comme The Walking Dead pour les séries ou la bande dessinée, mais c'est vrai que le motif du zombie depuis Romero, il est vu et revu et même avant lui. Mais bon, même si c'est des représentations qu'on a tous, qu'on imagine assez facilement. Et c'est vrai que dans le cadre du jeu vidéo, de représentations qui touchent au monde végétal ou aux champignons, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Et en horreur, la manière de rendre les choses plus terrifiantes, ça a plutôt été d'explorer l'anatomie humaine et d'essayer de la modéliser, de la représenter de la manière la plus saisissante possible pour essayer de jouer sur un des éléments qui est essentiel pour l'expérience de l'horreur, à savoir le dégoût, et en jouant sur le fait de montrer des corps dans des états pas possibles. Mais il y a un moment où on finit par tourner en rond, et c'est dur de renouveler ce type de représentation pour produire un effet intéressant. Et c'est vrai que si dans le jeu, dans Last of Us, on a finalement un intérêt qui est relativement faible de la part des scénaristes pour la pandémie qu'ils ont inventée, parce que finalement c'est un ressort qui sert à poser un cadre plus qu'à vraiment raconter quelque chose de précis sur cette pandémie, même si le côté crise climatique et crise écologique est évoqué un peu plus dans la série, on a quand même une situation qui permet de renouveler de manière hyper intéressante. Et effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas, c'est le cordyceps et tous ses amis ont des aspects absolument prodigieux, et c'est des choses qui touchent à l'étrange, qui touchent à quelque chose d'assez angoissant d'un point de vue organique, parce qu'on est dans quelque chose qui pour beaucoup touche à l'abject. On est sur quelque chose qui est vraiment dans lequel qu'on n'a pas envie d'aller voir de plus près, en fait. Et c'est ce qui est très très bien reconstruit dans le monster design des jeux, et qui est repris quasiment à l'identique dans la série, avec des faciès qui sont remplacés par des champignons qui ressemblent à des champignons qui poussent sur les troncs d'arbres. On a vraiment tout ce côté filament, ce côté réticulaire des champignons qui se répandent sur les murs, qui est repris, et ça donne des choses qui sont d'autant plus terrifiantes qu'elles sont presque aliens. Mais malgré tout, on a, pour peu qu'on ait vu de près ou de loin quelques champignons autres que les champignons de Paris, on a quand même en tête le fait que ces choses-là pourraient exister ou existent carrément, ce qui permet de décupler l'angoisse assez facilement.
Oui, ce que vous dites, hein, c'est que les champignons, ça permet aussi de renouveler le bestiaire qu'on retrouve dans tout ce type de jeux vidéo, hein, Nicolas Donnechaud.
Ouais, en fait, ça a même un double avantage, cette super idée, cette super rencontre entre Neil Druckmann, Bruce Straley et puis ce reportage. C'est que déjà, premièrement, ça va permettre de créer un postulat de science-fiction crédible. Si vous voulez, ça, c'est ça, comme le dit Guillaume, ça permet de remplacer un petit peu. Bon, bah alors les zombies sont là parce que tout d'un coup les morts se réveillent. Bon, c'est pas crédible, on décroche tout de suite, on se détache d'un certain réalisme. Mais là, on est plus un peu comme dans le contexte de la manière dont sont nés les dinosaures dans Jurassic Park. Vous voyez, il y a une espèce d'explication qui, comme le disait Marc-André Sellers, c'est pas forcément très réaliste, mais néanmoins on pourrait y croire. Enfin, avec toutes les problématiques écologiques actuelles, si vous voulez, ça reste un postulat, pourquoi pas. Et donc ça, c'est la première bonne idée. Et la deuxième bonne idée, c'est qu'effectivement, c'est une proposition visuelle assez dingue. Et c'est même une proposition visuelle qui va se traduire aussi bien dans le jeu vidéo que dans la série par un mélange entre ce que représente déjà un champignon dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire un mélange de fascination. Il y a une certaine beauté à regarder un champignon et puis un certain dégoût, parce qu'il y a quand même des formes assez terrifiantes, quoi. Là, en plus, ils ont choisi le cordyceps, ils n'ont pas choisi un cèpe ou une morille, n'est-ce pas ? Mais par contre, ils ont pris vraiment un champignon qui peut déployer des formes et des couleurs assez dingues et qui va permettre une représentation visuelle dans la série ou dans le jeu vidéo qui va tout de suite détonner. Surtout dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est en déchéance totale, qui va détonner avec ce gris que représentent les humains, cette thématique un peu grise, un peu bleuée, qui va entourer les humains, et puis derrière ce vert et ces couleurs flamboyantes de la nature qui reprend ses droits sur l'humanité.
Et vous, Marc-André Sellos, votre regard sur le traitement visuel des champignons dans la série?
Alors, il est à la fois réjouissant. Il y a notamment cette espèce de stade final là qu'on voit où il y a un individu comme ça qui est colonisé dans un coin d'un couloir de métro, mais qui est colonisé depuis longtemps, et le champignon est complètement sec et mort. Il y a quelque chose là qui est réaliste dans le cycle, hein, que à partir d'un certain point, le champignon, son individu, il a sporulé, et puis il sèche et il meurt. Il y a des choses à la fois réalistes, hein, effectivement, qui renouvellent vraiment l'inspiration, ça c'est clair. Et puis alors, il y a des choses un peu marrante, et notamment le générique, moi, il me fait beaucoup rire, parce qu'en fait, c'est des amibes, hein, qu'on voit sur le générique, c'est pas du tout des champignons. Et c'est marrant, parce que je me disais, en regardant le générique, j'ai regardé la série, puisqu'on m'a demandé de la regarder pour l'émission, et je suis très content de l'avoir fait, mais je trouvais que c'était plus intéressant psychologiquement que mycologiquement. Mais ce qui m'a frappé au générique, c'est que donc on voit des espèces de comportements qui sont plutôt amiboïdes, qui rappellent ce qu'on appelle le blob. Et je me suis dit que quand je voyais une représentation comme ça, eh bien c'était pour moi l'équivalent pour les champignons de ce que sont les représentations des rhinocéros par Dürer, ou les représentations moyenâgeuses des lions et des rhinocéros. Il y a un côté assez naïf et approximatif. Alors, moi, ça me gêne pas du tout. Et dans le film, pour ceux qui l'ont vu, on voit bien que de toute façon, la présence du champignon est assez discrète. Hein. Mais c'est marrant parce que il y a à la fois un degré d'inspiration assez fin, hein, avec ces comportements manipulateurs. Il y a de la bonne biologie dessous. Et puis, il y a un visuel, il y a un imaginaire du champignon qui reste encore assez éloigné de ce qu'est le champignon vraiment. Enfin, je dis ça sur le ton d'un commentaire, pas du tout dépréciatif quant à la série. Hein.
Non, mais ce que vous vouliez dire, c'est que c'est assez représentatif de notre méconnaissance de ce monde-là.
Voilà. Voilà, en fait, on connaît aussi bien les champignons que Dürer connaissait les rhinocéros au Moyen-Âge.
Alors, continuons de parler de l'univers de cette franchise. Hein, dans cette série post-apocalyptique, en 2033, les survivants communiquent par la radio. Les musiques sont des noms de code pour faire passer des messages. Celle des années 80 signifie « attention, danger ». Never Let Me Down Again par Depeche Mode à 16h39 sur France Culture, un morceau que l'on entend à la fin de l'épisode 1 de la série The Last of Us, car nous parlons de cette série adaptée du jeu vidéo éponyme hein, tout au long de cette heure en compagnie de Guillaume Bachelier, docteur en arts et sciences de l'art, professeur agrégé d'art plastique, chercheur associé au laboratoire Arthès, avec Nicolas Denéchaud, auteur de plusieurs ouvrages traitant de franchise du jeu vidéo, et avec Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous venons de voir dans un premier temps qu'une pandémie de champignons comme dans The Last of Us est très très improbable. Une question tout de même est soulevée hein, dans cette série, le changement climatique peut-il modifier le comportement d'un de ces parasites jusqu'à le rendre capable d'infecter l'humain ?
Docteur Schoenheis, vous soupirez.
Ces infections fongiques ne peuvent se produire chez l'humain.
Oui, c'est un fait. Les champignons ne peuvent survivre si la température corporelle de leur hôte dépasse les 35 degrés. Et à l'heure actuelle, ils n'ont aucune raison d'évoluer pour supporter de plus fortes températures. Mais si les choses venaient à changer, imaginons, par exemple, que le monde devienne un petit peu plus chaud. Dans cette situation, ils auraient une raison d'évoluer. Une simple mutation et les ascomycètes, les candidats, les ergots, les cordyceps, les aspergillus, n'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous. Plusieurs milliards de marionnettes à l'esprit infecté ayant un seul et unique objectif fédérateur, répandre le plus rapidement possible cette infection chez chaque être humain encore en vie, par tous les moyens, quoi qu'il en coûte. Et il n'existe aucun traitement pour cela, aucun moyen préventif ou curatif. Il n'existe pas, car il est absolument impossible de les fabriquer.
Et si jamais ça se produit ?
Nous aurons perdu.
Marc-André Sellos, une réaction à cet extrait ?
Ah ben alors bon, dans le cocktail effectivement d'un cadre un peu général, c'est pas bête de penser au changement climatique. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette histoire-là ? Moi, je pense que les champignons peuvent s'adapter à la température du corps humain indépendamment du changement climatique. D'ailleurs, bon, on disait tout à l'heure que certains aspergillus ont fait le trajet. Hein. En revanche, il est vrai que le changement climatique pose des vrais problèmes en termes de maladies. Ça personne ne songe à le nier. Bon, déjà il y a des maladies, notamment alors une espèce de levure, bon, c'est pas très très loin de le Cordyceps, mais bon, ça fait surtout des bon, ça peut tuer des gens. Hein. Le Candida auris, par exemple, est une levure qui semble se répandre. C'est une maladie émergente qui semble se répandre parce que le climat est plus doux. Il y a aussi l'autre problème qui est que souvent nos parasites sont véhiculés. Hein, ils font de l'autostop. Ils sont véhiculés par ce qu'on appelle les vecteurs. Et par exemple, vous voyez, la malaria, elle est transportée par le moustique tigre. On sait bien que le moustique tigre est arrivé, ou la dengue d'ailleurs, hein. On sait bien que le moustique tigre est arrivé à cause du changement climatique chez nous. Et demain, il pourrait embarquer ces maladies et recommencer à les diffuser dans nos régions. Donc, effectivement, le changement climatique, c'est une des causes de l'émergence de nouvelles maladies, c'est sûr. Après, que ce soit une sorte de marche dans l'évolution des champignons pour qu'ils colonisent le corps humain, ça, je pense que c'est inutilement complexe comme modèle. Et c'est vrai qu'on voit que nos bêtises, on les paye de diverses façons, mais le changement climatique, il a des effets sur la santé. Ça, par contre, c'est inévitable.
Une autre explication hein, dans la série qu'on entend, c'est que cette contamination mondiale, ça serait arrivé par une contamination alimentaire, Marc-André Sellos.
Ouais, alors oui, j'ai bien appris ça au début donc de l'avant-dernier épisode disponible. Alors ouais, c'est malin parce que alors non, ce qui est vraiment malin là, c'est que effectivement on voit qu'il suffisait pas de bomber de vitrifier une ville, mais que il y avait plusieurs foyers qui s'étaient développés, que c'est devenu vite incontrôlable. C'est assez astucieux ça, c'est d'un point de vue épidémiologique. Hein. Après, j'ai pas bien compris comment ça marchait, mais si c'est des contaminations par des spores dans les aliments, ça paraît tout à fait décent, effectivement. Mais vous voyez, le truc qui me gêne, c'est ce truc, il a muté, mais on sait pas bien comment, et il est transmis par des aliments avant, finalement, d'avoir rencontré l'homme, alors que c'est sur l'homme qui se multiplie. Dans le détail, je suis pas très bien l'histoire, mais on s'en fout. C'est globalement crédible, et c'est ça qui est assez astucieux, c'est qu'à aucun moment on regarde l'écran en disant c'est quoi ces conneries. En plus, on est quand même porté par un scénario assez riche, faut le dire.
Nicolas Denéchaud.
Oui, mais c'est vrai que, enfin, à la limite, on s'en fout de ce postulat. que à partir du moment où on l'a accepté en tant que spectateur ou joueur, on peut se refocaliser. En fait, on est déjà dans un monde d'après qui n'a même plus les moyens, comment dire, d'analyser justement les causes et les venues. Hein. Vous voyez, on a des personnages qui viennent de l'ancien monde, qui ont connu l'heure de la pandémie et qui tentent juste de survivre. Et puis on a une nouvelle génération qui elle est née dans la pandémie et qui n'est plus formée qu'à faire la guerre, visiblement, hein, la génération dont fait partie Ellie, et qui n'est plus formée qu'à la simple question de survie, et tout le bagage scientifique qui est autour, bon bah il a été englobé dans cette diégèse, dans cet univers. D'ailleurs, je reviens un peu sur la musique que vous avez basée, parce que la musique, l'utilisation de la musique dans le jeu The Last of Us et aussi un petit peu dans la série, elle traduit assez bien ça, parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique dans lequel toute création artistique n'est... Il n'y a plus de création artistique, il n'y a plus vraiment de musiciens qui créent, etc. Et l'utilisation de ces pistes sonores qui viennent des années 80 ou des années 90, elle émerge dans les jeux vidéo, comme dans la série, comme des espèces de reliques d'un ancien temps. Vous voyez, elles sont utilisées sciemment pour comme témoins. En fait, elles sont même manipulées sous forme de cassettes ou sous forme de CD par les personnages de la série comme des objets de curiosité. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est l'art dans un univers pareil, dans un monde dans lequel tout est danger, quoi.
Guillaume Béchelier.
C'est ce qu'il faut voir aussi par rapport à la crédibilité du point de départ de Last of Us, c'est qu'on revient de loin aussi, ou on vient de loin au niveau du média jeu vidéo sur ce type de proposition, où comme on l'évoquait, les scénarios sont souvent des prétextes pour simplement amener une aventure. Et c'est vrai que dans le monde de l'horreur, une des grandes séries qui utilise des thématiques scientifiques et qui base toute son horreur sur les fictions biologiques, c'est Resident Evil. Et on est sur une franchise qui foule à pieds joints la réalité scientifique avec grand plaisir, et pour le grand plaisir des joueurs, parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus, mais on est sur des histoires de mutations de virus qui sont totalement improbables et qui n'ont absolument aucun sens très très rapidement, alors que là ils ont le bon goût d'avoir un point de départ qui est plausible à défaut d'être réaliste, et qui finalement sert de mise en contexte, de mise en bouche pour développer un univers qui a sa personnalité. Mais ils essayent pas d'absolument, et on verra sur la série, mais dans le jeu en tout cas, ils essayent pas à tout prix de justifier et d'expliquer et de donner des raisons, ce qui est souvent le grand défaut des scénarios de jeux vidéo et de cinéma d'ailleurs aussi, hein. Dès qu'il y a un point de départ qui est un peu tordu, dès qu'on cherche à démontrer la véracité de la chose, on arrive souvent sur des explications complètement boiteuses.
Alors j'aimerais bien qu'on parle maintenant des différences, hein, qu'il y a entre le jeu et la série, hein, sur l'adaptation. Parce que justement, il y a des grosses différences sur l'infection qui se déroule sous nos yeux, Guillaume Béchelier.
Dans le jeu, on insiste énormément sur le fait que l'infection se joue par le biais des spores. C'est un élément qui est totalement absent, en tout cas pour l'instant, de la série. D'ailleurs, les personnages, on les voit pas se promener avec des masques à gaz, alors que ça, c'est un élément qui revient très souvent dans le jeu. Ça fait partie des éléments qui ont vraiment un rôle essentiel dans la survie des personnages. Parce qu'on est sur un jeu, on l'a dit, un jeu qui se présente comme un jeu d'horreur, même si en réalité, ça évacue beaucoup des éléments spécifiques du jeu vidéo d'horreur, qui a quand même ses codes et son cahier des charges. Mais un des éléments, c'est qu'on est dans la survie, qu'on doit récupérer des éléments pour fabriquer des armes, pour fabriquer des munitions, fabriquer des soins. Et un de ces éléments clés, c'est les filtres pour le masque à gaz. C'est un jeu qui mise énormément là-dessus. Et là, c'est un élément qui nous est totalement enlevé. Alors sans doute parce qu'on voulait pas masquer les acteurs principaux, histoire d'en avoir pour son argent. Mais effectivement, on reste sur la thématique, pour le coup, très zombie de la morsure. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est présenté très rapidement avec Ellie, avec ses traces de morsure sur l'avant-bras et le fait qu'elle se fasse très vite remordre pour nous montrer pour que les spectateurs comprennent bien comment fonctionne justement le procédé. Mais cet aspect-là, il est beaucoup plus présent et beaucoup plus important dans la série que dans le jeu.
Oui, c'est ça, c'est que les spores contaminantes ont donc été remplacés par des filaments velus. On le voit avec une grand-mère, hein, qui grignote son mari dès le premier épisode, Nicolas Denéchaud.
Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que dans le jeu, on a vraiment aucun contexte. Enfin, on est un peu l'épidémie vient dès les 10 premières minutes de jeu, et puis finalement c'est l'événement majeur qui va nous amener et qui va nous balancer 20 ans après dans cet univers. Et finalement, on y revient assez peu. Et après se développent certains codes que vient de rappeler Guillaume, qui ont été un peu écartés pour la série. Alors peut-être potentiellement pour des raisons évidentes, que c'est vrai que de voir les acteurs tout le temps masqués, ça aurait pas été forcément très télévisuel. Donc ils ont trouvé un autre circuit, mais sinon globalement on est quand même sur une adaptation quasi littérale, et c'est presque dans cette adaptation quasi littérale qu'on va pouvoir aussi retirer. Enfin, je veux dire, il y a deux aspects intéressants à cette adaptation en série. C'est d'un côté pour ceux qui connaissent déjà les jeux vidéo, Qu'est-ce que ça représente une adaptation? Quelles sont les difficultés à adapter donc un jeu vidéo en série quand on y met les moyens et quand on veille à un certain intérêt artistique? Et puis de l'autre côté, pour les spectateurs qui ne connaissaient pas les jeux vidéo, c'est tout simplement est-ce que c'est une série qui nous raconte quelque chose d'intéressant, et est-ce que c'est une série qui va réussir à se démarquer de toute cette énorme lot de fiction post-apocalyptique qui se déverse sur nos écrans depuis une vingtaine d'années?
En tout cas, la série, il y a de belles inventions dans cette série, et notamment on découvre que les infectés communiquent à distance.
Il y en a des milliers.
La dernière fois qu'on est passé par là, ils se terraient dans les immeubles. Mais j'imagine qu'un paquet de monde a dû s'y mettre à l'abri en cherchant la zone de quarantaine. Ce qui fait que leur nombre n'a cessé de grandir petit à petit, année après année.
Ils sont connectés.
Bien plus qu'on ne le pense. Le champignon pousse aussi sous terre. De longues fibres, comme des fils, qui peuvent s'étendre à plus d'un kilomètre. Tu marches sur une plaque de cordyceps à un endroit, et tu réveilles une dizaine d'infectés à proximité. Donc ils savent où tu es, et ils arrivent. Ton immunité est inutile s'ils te réduisent en pièces. Est-ce que tu comprends? C'est important. Je dis ça pour que tu restes en vie.
Marc-André Sellos, une réaction à cet extrait?
Alors, je pense que là, il y a une contamination par un autre champ de connaissance des champignons, qui est celui des réseaux mycorhiziens. C'est d'ailleurs quelque chose que le plus grand public connaît mieux que les scientifiques, parce que, pour le coup, on n'en sait pas grand-chose. Mais ça a été très très vulgarisé, cette idée que une certaine catégorie écologique de champignons, qui sont associés aux racines des plantes et qui les aident à se nourrir dans le sol en échange d'un peu de sucre, les champignons qu'on dit donc mycorhiziens, puisque cet organe mixte fait de champignons du sol et de racines, ça c'est ce qu'on appelle la mycorhize, ces champignons-là, ils peuvent coloniser plusieurs plantes. Et on sait, enfin, mon laboratoire travaille là-dessus en particulier, que ces champignons peuvent transporter la nourriture d'une plante à l'autre. Il y a même des plantes en forêt qui vivent dans la pénombre en exploitant par le biais de ce réseau la photosynthèse des arbres qui, eux, ont accès à la lumière et donnent beaucoup de sucre aux champignons, tandis que ces plantes-là, elles déchargent le sucre du champignon. Donc, il y a aussi l'idée que il semble qu'au moins dans certaines circonstances, il y a des signaux d'alerte. Quand une plante est grignotée par un insecte, les plantes voisines qui sont connectées au même champignon accumulent des substances insecticides. Et c'est préventivement très très utile. Et donc, cette idée qu'il y a des réseaux mycorhiziens, je pense que c'est... Et bon, on ne sait pas leur étendue exacte, mais on sait que ça existe dans certains cas, cette histoire-là. C'est sans doute ce qui a inspiré ça. L'idée qu'il y ait une communication. Mais alors, le problème, c'est que c'est bien qu'il y ait un réseau sous terre. Ce que je vois pas très bien, c'est comment ils se connectent aux zombies qui, eux, n'ont pas de lien physique au réseau qui est sous terre. Donc ça, c'est pas très clair. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est sans doute l'inspiration vient de cette histoire qu'effectivement, étant filamenteux, les champignons sont de nature à transporter des molécules et notamment donc des informations d'endroit en endroit.
C'est pas très clair, mais Guillaume Béchevier, ça c'est une invention, c'est une trouvaille du point de vue visuel, hein, de ces grappes comme ça d'infectés, ces grappes de zombies.
Ah bah oui, ça fonctionne vraiment très très bien. Et il y a ça rajoute au côté. Presque body horror que le jeu a sans véritablement l'avoir, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très malin, c'est-à-dire que c'est un jeu d'horreur qui se vend comme un jeu d'horreur où finalement on a des choses, des séquences qui peuvent être très violentes et mais plus dans les relations que les humains ont entre eux. Et au niveau des monstres, finalement, ils ont fait le très bon choix de montrer finalement des champignons et quelque chose qui de prime abord pourrait être tout droit sorti d'un manuel de SVT. Donc l'idée est plutôt intéressante parce qu'on a quelque chose qui visuellement, on l'a dit tout à l'heure, peut toucher à l'étrange, à l'abject, sans être totalement odieux à regarder. Mais malgré tout, le fait de jouer sur cet agglomérat de créatures, sur le fait de montrer, il y a une séquence comme ça, une des premières séquences où on voit une horde, où on les voit tous allongés sur le bitume. Il y a un côté, on dirait presque un blob qui s'étale. On a quelque chose de complètement angoissant, parce que c'est complètement étrange. Et c'est assez marrant dans les transferts entre le jeu et la série, c'est que finalement, cette histoire de connexion entre les zombies n'est pas dans le jeu, mais c'est quelque chose qui pourrait renvoyer complètement à une mécanique de jeu. On pourrait tout à fait utiliser ça de manière très intéressante dans un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo, même des jeux d'horreur comme Days Gone, qui proposent des principes de horde où on a vraiment des grands groupes de zombies à affronter. Et ça, finalement, ça pourrait, pour un épisode 3 de Last of Us, ça pourrait faire une super mécanique pour renouveler le jeu.
On arrive à la fin de cette émission et je voudrais pas qu'on termine sans parler de cet aspect qui me semble important, Nicolas Denechaud. Hein. Au-delà de l'aspect champignons et pandémie, on peut aussi parler de cette autre thématique scientifique que traite la franchise. Hein. C'est ce que deviendrait la Terre sans être humain.
Oui, en fait, c'est vrai que ce qui démarque visuellement la série, donc on en a longuement parlé, ce sont les champignons, mais c'est aussi cet aspect visuel que ces villes sont représentées complètement envahies par la jungle, complètement déstructurées, détruites, et cette nature omniprésente. Et en fait, c'est une direction artistique alors qui est basée sur et revendiquée par Neil Druckmann comme Bonstrali, hein, qui est basée sur un ouvrage d'Alan Vasmain qui s'appelle Homo Disparitus, hein, qui s'amuse un petit peu à imaginer ce que deviendrait la Terre si du jour au lendemain tous les hommes disparaissaient. Et l'auteur s'amuse un petit peu à dire bon bah voilà, au bout d'un an les villes en seraient à cet état-là, elles seraient submergées par les flots parce qu'il y aurait plus de pompes actives, et puis les centrales nucléaires sans entretien, du coup il y aurait des fuites radioactives dans tous les sens. Et puis 5 ans après ça ferait ceci, 10 ans après la végétation aura repris ses doigts sur le béton, etc., etc. Il va jusqu'à 1000 ans, 3 siècles plus tard. Mais en fait, ce que ça représente là vraiment, c'est un support scénaristique et elle est là la super idée de cette idée de donc qui est exclusive à la série, hein, qui est vraiment pour moi le meilleur ajout que ramène la série par rapport aux jeux vidéo. C'est cette idée justement de communication entre tous ces champignons. Si vous voulez, elle image complètement scénaristiquement cette impossibilité qu'ont les êtres humains d'un côté à se mettre d'accord et à assurer leur survie. Et alors cette cohérence globale de la nature qui est très métaphorique, philosophique, hein, puisque ils communiquent tous, ils s'entraident tous, la nature est partout, elle envahit tout et elle grignote chaque aspect de l'être humain parce que l'être humain est en incapacité totale de s'organiser. Et on le voit là par exemple dans l'épisode 4 où on se trouve n'importe quelle excuse pour pouvoir se combattre les uns les autres.
Guillaume Béchelier, hein, sur le réalisme, pour conclure sur le réalisme de ce monde post-apocalyptique.
C'est ce type d'approche, ce type de regard, c'est pas nouveau. On trouve des fictions dès le 19e siècle. Il y a un ouvrage assez célèbre qui s'appelle, enfin assez célèbre dans cette niche-là, qui s'appelle After London de Richard Jefferies, qui imagine justement ce que donnerait Londres si les humains disparaissaient du jour au lendemain, et qui extrapole avec un regard scientifique, qui extrapole comment se développeraient les animaux, la végétation, etc. C'est quelque chose qui réfléchit à de manière très très cadrée à une approche scientifique. Et finalement, c'est un excellent moteur narratif, c'est un excellent moteur pour les histoires, et malheureusement, c'est aussi un excellent miroir qui nous est tendu.
Merci, puis ce miroir continuera à nous être tendu, hein, parce que HBO a confirmé une saison 2 de The Last of Us, et on attend le jeu vidéo The Last of Us Part 3. Merci en tout cas à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terrasse, Garance Préma Anolo, Céline Lausanne, Eve Etienne. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. Cette émission, ce podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, quand vous le voulez et où vous le voulez, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.